voilà, quelques accords de guitare. Eh bien, pour changer un peu, moi, on va parler tourisme. Non, pas vraiment, mais je vais vous proposer une petite idée week-end. Mais alors, non,
d'abord, je voudrais préciser qu'on parlait de Krakoen. Donc, si les éditeurs de la première partie veulent plus de renseignements sur les éditions Krakoen, ils ont un site internet qui est pas trop mal fait et dont l'adresse est www.krakoen.com.
Est-ce que tu pourrais épeler Krakoen, Krakoen?
Je vais l'épeler parce que comme c'est bretonnant, quelque chose comme ça, c'est K-R-A-K-O-E-N.
Krakoen, K-O-E-N, voilà. Oui. Merci de m'avoir interrompu.
Maintenant, partons.
Tu as autre chose à dire?
Non, partons en week-end.
Partons en week-end. Donc, je vous emmène à Lyon. Apparemment, les grosses intempéries sont finies. Et ce week-end, donc à partir de vendredi midi jusqu'à dimanche soir, un plateau d'auteurs de polars du monde entier vous attend dans la ville de Lyon. C'est vraiment donc c'est un festival qui s'appelle Quai du Polar. C'est, si je ne m'abuse, la 4e édition.
Parfaitement.
Ouf, j'ai eu peur, je croyais que je m'étais trompée d'un numéro. Et donc, chaque année, on découvre de plus en plus d'auteurs venus de tous horizons, avec en vedette cette année, Georges Pelecanos, qui est un des auteurs majeurs américains du roman noir, qui décrit une société américaine telle qu'on la voit pas tellement souvent à la télé, mais qui a une patte d'écriture absolument fantastique. Donc, rien que pour rencontrer cet auteur-là, ça vaut le coup. Mais
il y en a 50 autres.
Il y en a 50 autres. Il y a un dont on vous parle souvent, Arnaldur Indridason, l'Islandais. On vous a parlé de son dernier livre, L'homme du lac, il n'y a pas longtemps. Il y a une Suédoise, Karin Alvegen.
Et qui...
Je sais ce que tu veux dire.
Qui a l'air de, enfin, qui ressemble à l'idée qu'on se fait.
D'une Suédoise. Mais ses livres sont bien aussi. Bon. Et tiens, petit détail, on en avait parlé d'ailleurs. C'est la petite nièce de Lundgren, celle qu'avait fait Fifi Brin d'Acier. Un des musts de mes lectures d'enfance. Enfin bon, on va s'arrêter là.
Il y aura aussi l'ami Caril Ferré.
Alors, il y a aussi une belle brochette d'auteurs français, dont Didier Deninck, Caril Ferré. Un dont on vous a parlé il y a pas longtemps, Patrick Péchereau, avec un excellent série noire qui s'appelle Soleil Noir. Donc, une série noire dont le titre est Soleil Noir. D'autres auteurs venus d'Europe, en particulier Per Giorgio Di Cara, un Sicilien... dont tous les livres parus en France sont excellents. Il y en a 3 aux éditions Métayer.
Voilà.
Beaucoup de rencontres, beaucoup de cinéma, beaucoup de cafés littéraires. Ça se passe sur les quais, c'est pour ça que ça s'appelle Quai du Polar, hein. Ça se passe quai du Rhône. Et, donc vous avez, Jacques n'a pas besoin de m'interrompre pour que je lui demande maintenant de nous dire les coordonnées du site. J'espère qu'il s'en souvient, mais moi je le sais.
QuaiduPolar.com avec un S à quai.
Oui, quai du polar en un seul mot.
Oui, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs quais vu qu'ils ont déjà une rivière et en plus, eux, ils en ont 2, donc ça fait déjà 4 quais.
4 quais. Bah, oula. QuaiduPolar.com, en plus, une très jolie iconographie pour ce site. C'est vraiment un joli site. Donc, venez passer un petit week-end. Il y a des restos pas chers.
On dit une charte graphique.
On dit une charte graphique. Oui, oui, je n'allais pas dire un charte graphique non plus.
Non,
faut pas
dit iconographie, non, c'est
charte
graphique.
Ah bon, pardon. Eh oui, je travaille à l'ancienne, moi, monsieur. Bon, on va vous parler d'un livre qui s'appelle Le gâteau mexicain. Son auteur en est Antonin Varenne et c'est aux éditions Toute Latitude, collection Intrigue. Et c'est un roman que vous pouvez obtenir pour 19,90 €. J'ai toujours adoré ça, 19,90 €. Pourquoi pas 20 €? Enfin, ça fait pas le même effet. Donc, tout commence, l'histoire commence sur une route de campagne, la nuit, quand Nino Valentine, qui est un gitan, qui fait partie d'une famille qui ont pratiquement tous leurs prénoms se terminent par O. Donc, il est accompagné de son oncle. Lui, il a un surnom, c'est La Chance. Vous verrez pourquoi en lisant ce livre. Donc, il fonce dans le décor, en fait, en pleine nuit, dans une route de campagne, comme je viens de le dire, à cause d'une voiture où gît un cadavre de femme et un bébé. Comme ils sont pas trop bêtes, ils pensent tout de suite que le cadavre de la femme, c'est la maman du bébé. Et donc, les voilà affublés d'un bébé.
Le bébé n'est pas mort, donc.
Le bébé n'est pas mort et ils savent pas quoi en faire. Et en plus...
Parce qu'en Bretagne, il les congèle.
Oh, l'oncle meurt. Ce n'est pas du roman noir, c'est de l'humour noir. Donc l'oncle décède peu après, l'oncle qui s'appelait La Chance, donc on n'a pas eu trop. Et Nino se retrouve avec un cadavre et un bébé sur les bras. Un bébé dont il faut retrouver la famille, ou tout au moins trouver son origine. Et l'oncle dont le cadavre disparaît assez rapidement dans une morgue. Et chez les gitans, ça se fait pas. On ne peut pas abandonner le cadavre d'un de la famille. Donc, deux ennuis pour Nino Valentine. Quelques dizaines de pages plus tard, apparaît un autre personnage, tout aussi improbable d'ailleurs, Arthur Padovani, qui est un flic à la Brigade des Mœurs. Et c'est un flic totalement obèse et, pour tout dire, complètement repoussant. Et dans ce roman, nous allons suivre en alternance, avec les tribulations du gitan Nino, les efforts de ce flic, Padovani, pour sauver une petite pute, Nathalie, qu'il a rencontrée, et il veut la sauver des griffes de ses souteneurs. Petit à petit, on se rend compte que c'est une sorte de tâche qui s'est donnée, d'essayer d'en sauver quelques-unes du moins. Et pour cela, il est aidé de son ami Nicole, qui, on s'en aperçoit aussi assez vite, a fait partie de ce milieu-là pendant des années. Mais elle était du côté indépendant. Et pour arriver à ses fins, on peut dire que les méthodes du flic obèse, sont rien moins que peu orthodoxes. Mais de toute façon, il est au bout du rouleau et il n'en a absolument plus rien à faire de la loi et des codes sociaux. Donc, on va aller jusqu'au bout de son itinéraire, comme on va aller jusqu'au bout de la route aussi avec Nino. Donc, c'est deux récits et deux styles très, très différents. Le style qui explique les tribulations de Nino, donc très proche de l'oralité, avec donc un langage qui semble se rapprocher de la langue des gitans, avec des tournures très particulières, des mots un petit peu qui nous étonnent un peu. Donc ça nous plonge complètement dans le mode dans le monde des gitans. J'ai une petite réserve à faire. Un petit peu comme le gâteau mexicain de la couverture, c'est un peu boursouflé et un petit peu lourd comme style. On peut pas, il faut vraiment avoir une sacrée patte d'écriture pour pouvoir tenir la distance sur un style pareil. L'autre récit aussi, avec ce flic monstrueux, une galerie de personnages qui semble tout droit sortie d'un comics. Et franchement, autre petite réserve, on n'y croit pas vraiment. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est pas fait pour qu'on y croit. C'est une espèce de fable et l'auteur, on sent bien qu'il se régale à décrire et le premier milieu et le deuxième milieu. Et malgré les réserves que je fais à la fin, il y a vraiment beaucoup de qualité dans ce roman. Je l'ai fini sans problème. C'est pas le cas de beaucoup de romans que j'entame. Mais j'aurais un petit conseil à donner à l'auteur de rester un petit peu plus humble au niveau du style et au niveau de l'emphase du récit. Il y gagnera beaucoup, beaucoup grâce à une sobriété de bon aloi. Voilà, je répète, aux éditions Toute Latitude, ça s'appelle Le Gâteau Mexicain. D'ailleurs, vous avez une magnifique part de gâteau, je suppose qu'il est mexicain,
avec la crème. Avec un couple de mariés, ressemble à ça, du moins.
Avec des figurines de mariés sur fond de ciel d'azur. Antonin Varenne, à la collection Intrigue. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai droit à quelques
un peu de
minutes.
Musique, donc voilà. Puisqu'on parlait de 68, un petit morceau qui date de ces années-là, en fait il date plutôt de 67, mais le grand succès c'est quand il est sorti en 45 tours en 68, en version écourtée. Vous la connaissez tous, La nuit dans le satin blanc, enfin ceux qui sont de notre époque disons, par les Moody Blues, Night in White Satin.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you.
Accord final donc de Night in White Satin, et je voudrais quand même préciser quelque chose.
Orchestra.
Ah oui, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire que c'était de l'époque, tu as dit de notre génération. Je préférais que tu dises de ta génération. Ce serait quand même beaucoup plus juste. Ouais. Moi, j'étais toute gamine. Je ne pouvais connaître. Et pourtant, j'ai beaucoup dansé quelques années plus tard sur ce slow. Tout ça en hommage un petit peu à Françoise Laurent et à Dola. Qui donc met en scène des ex-68ards, un morceau de 68. Et là, on est en 2008, en Sicile, non ?
Oui, en 2000 quelque chose. La version italienne date de 2006. C'est un roman d'un autre Sicilien, puisqu'on parlait de Pier Giorgio Di Cara tout à l'heure. Là, c'est son grand aîné, Andrea Camilleri. Le roman s'appelle « La lune de papier ». Il est paru au Fleuve Noir en grand format et il vaut 20 euros. Il est toujours traduit... très très bien par Serge Cadrupani et sa collègue Maruzza Loria. J'essaie de faire avec l'accent. Donc c'est une nouvelle, je sais plus, c'est une nouvelle enquête du commissaire Montalbano.
On les compte plus, ils sont tous bien, mais on les compte plus.
On en parle souvent, mais bon, c'est toujours bien, donc on peut pas s'en, ça serait dommage de s'en priver et de priver les gens qui le connaissent pas de le découvrir.
Oui, parce qu'on peut les prendre dans le désordre, on n'est pas obligé
fait,
de...
Et là donc, dans cette enquête, un homme a été retrouvé mort chez lui, assassiné d'une balle dans la tête, mais fait étrange, il a la braguette ouverte et le sexe à l'air. Il s'appelle
Angelo.
Il s'appelle Angelo.
Enfin, il s'appelait.
Il s'appelait Angelo. C'était pas un saint dans sa vie, il a un passé plutôt chargé, mais quand même la mise en scène, sa mort et la mise en scène intriguent le commissaire de Vigata, Salvo Montalbano. Et donc il va se mettre à enquêter, une enquête qui va mener tambour battant entre les deux femmes de la vie d'Angelo, sa sœur qui s'appelait Michela et sa maîtresse, une femme mariée, pourquoi pas, Elena. Et il a fort à faire car elles font tout pour brouiller les pistes, elles mentent, elle trafique les indices. Bref, il est complètement paumé.
Il n'y a pas que la braguette qui est étrange.
Voilà, mais il va quand même, bien évidemment, s'en sortir. C'est une enquête, en plus, il l'amène pratiquement tout seul cette fois-ci. C'est à peine s'il se fait aider par Cattarella, qui est à la fois le grouillot du commissariat et le génie en informatique. Il y a quelques scènes, bien entendu, avec Cattarella qui sont parfaitement
hilarantes. Ah, le phrasé de Cattarella.
C'est un génie, donc il va réussir à découvrir quelques fichiers cachés dans un ordinateur. Voilà, tous les autres, la bande du commissariat, ils sont plutôt occupés. Et en plus, ils regardent avec étonnement l'énergie que développe Montalbano sur cette enquête. On ne sait pas bien pourquoi il est comme ça.
Pourtant, il est comme lui, il rajeunit pas.
Et pourtant, il rajeunit pas, exactement. Même Livia, sa compagne, elle vient lui rendre visite. C'est à peine s'il s'en aperçoit. Elle reste 3 jours. Bon, quand même, il s'en aperçoit, mais bon, il en fait pas grand cas. Il est perdu entre ces deux femmes-là, les deux femmes d'Angelo. Il va quand même, comme je disais tout à l'heure, mener à bout son enquête. Et il verra que malgré ce que lui disait son papa quand il était jeune, la lune que l'on voit dans le ciel, eh ben, contrairement à ce que lui disait, elle n'est pas de papier.
Oh, c'est une...
Voilà, c'est le titre. Oui, ça commence comme ça. Il explique au début du roman que son père lui racontait ça, que la lune qu'on voyait dans le ciel, elle était de papier, qu'on pouvait la toucher.
Alors, tu es parti bille en tête dans l'histoire de ce roman-là. On peut préciser quand même, c'est vrai qu'on en parle régulièrement dès que sort un livre de Camilleri, qu'il y a toute une série de livres avec Salvo Montalbano.
Ça doit faire une bonne dizaine.
Et on le suit dans ses relations avec les autres personnes du commissariat. On le suit dans sa relation avec Livia, avec les gens de la questure village à côté.
Là, il y a quelques scènes avec le questeur, qui est l'espèce de préfet de police. Quelques scènes, ils se détestent et il y a quelques scènes délirantes. D'ailleurs, ils se voient jamais, mais
quelques scènes ensemble, mais ils se voient jamais.
Voilà.
C'est une logique.
Oui, à chaque fois où ils devraient être ensemble, ils n'y sont jamais. Et en fait, bon, je disais tout à l'heure, les aventures de Salvo Montalbano, on s'en lasse pas. Et celle-là, n'échappe absolument pas à la règle. C'est du pur Camilleri.
Alors, est-ce qu'il y a des recettes de cuisine?
Pas beaucoup. En fait, certains détracteurs de Camilleri disent oui, mais c'est toujours pareil. Et oui, mais le seul problème, c'est que c'est toujours différent.
Mais c'est toujours bien, surtout.
Et c'est toujours bien. Et on l'aime, en fait, ce flic qui est si humain, qui se voit vieillir. Et puis alors, il aime absolument pas ça. Il perd la mémoire, il perd la patience. Et pire pour lui, il perd l'appétit.
Alors ça, s'il perd l'appétit,
voilà. Et donc,
il ne peut plus manger 8 merlans d'un coup.
Exactement. Et il y a toujours cette langue si bien rendue par Quadrupani. Il faut vraiment lui rendre hommage parce qu'il fait super boulot sur ça. Et l'humour de Camilleri, j'en parlais. Et il y a aussi, là, il faut quand même le citer, quelques points très sèches contre certains hommes politiques italiens que Camilleri déteste, et d'ailleurs que nous, on n'aime pas beaucoup non plus. Voilà, c'est un régal, et c'est aussi la fin de l'émission.
Bravo, c'est ce que j'ai dit.
Informations. Bonne soirée à tous, et à très bientôt.